Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue, si vous nous retrouvez en direct dans Europe Soir, on est ensemble évidemment jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes et à 19h20, le grand débat du Club des Idées sur ce fameux pass sanitaire voulu par le gouvernement et sur lequel planche aussi l'Europe. Ça pose beaucoup, beaucoup de questions sur la protection des données, bien sûr, mais aussi sur notre quotidien. Faudra-t-il être vacciné ou testé en permanence pour pouvoir aller au restaurant, boire un verre avec des amis ou voyager en train ou en avion? On répondra aussi à toutes vos questions. Le standard est ouvert, alors n'hésitez pas à nous poser vos questions. On y répondra donc avec nos invités. Voilà pour le programme. D'abord le journal Toute l'Info avec Isabelle Millet. 19h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Un confinement le week-end dans le Pas-de-Calais et trois nouveaux départements placés en vigilance maximale. Ce sont donc les principales annonces de la soirée.
Le gouvernement qui, plus que jamais, mise sur l'accélération de la campagne de vaccination d'ici cet été, les deux tiers des plus 18 ans qui le souhaitent devraient avoir reçu l'injection.
Tout le monde doit être sur le pont, dit le Premier ministre, y compris le week-end. Objectif, vacciner 20 millions de personnes d'ici fin mai.
Au sommaire également du journal ce soir, le nouvel appel à l'aide des intermittents.
Un an tout juste après la fermeture des lieux culturels.
Nous serons également en Irak, à la veille de l'arrivée du pape François.
Et puis un France-Nouvelle-Zélande de rugby, ça vous fait rêver? Eh bien, à vos marques, les billets sont sur le point d'être mis en vente pour le match d'ouverture du prochain mondial qui aura lieu en France.
La météo, Anissa Haddadi, le froid et la bise pour demain.
Et oui, en plus de la baisse des températures, la bise va souffler sur les côtes de la Manche. C'est le vent de nord-est qui se lève et qui va accentuer la sensation de froid. Nous aurons encore quelques nuages et des averses dans le Grand Est. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À qui le tour? Après Dunkerque et les Alpes-Maritimes, c'est donc le Pas-de-Calais qui devra rester confiné le week-end jusqu'à nouvel ordre.
L'analyse des derniers chiffres me conduit à étendre le dispositif de confinement le week-end que nous avons mis en place à Nice et à Dunkerque à l'ensemble du département du Pas-de-Calais. Le niveau de saturation des services de réanimation se situe au plus haut de tout les départements français. Les règles du confinement s'y appliqueront dès ce week-end, du samedi 8h au dimanche 18h.
Voilà, c'est donc la principale
annonce de cette conférence de Jean Castex que vous aviez suivie, Victor Delande. Le Pas-de-Calais est confiné donc du vendredi soir au lundi matin.
Et trois nouveaux départements placés en vigilance renforcée, Victor.
Oui, il s'agit des Hautes-Alpes, de l'Aisne et de l'Aube qui ont connu une progression telle depuis une semaine qu'ils ont franchi le seuil de 250 contaminations pour 100 000 habitants. Dans les 20 départements déjà placés sous surveillance, le virus a continué de progresser, à l'exception toutefois des Bouches-du-Rhône et de la Moselle, où l'épidémie a légèrement reculé. Pour ces 23 départements donc placés en vigilance renforcée, et à l'exception du Pas-de-Calais qui connaîtra un confinement le week-end, certaines mesures supplémentaires vont être appliquées. D'abord, l'obligation du port du masque qui sera étendue à toutes les zones urbaines de ces départements où elle ne s'applique pas encore. Les préfets seront également invités à interdire ou à limiter l'accès de certains sites très fréquentés pendant les week-ends où l'on observe notamment des regroupements de masse, trop souvent sans masque ni distanciation. Et dernière mesure, les manifestations pourront être également interdites par les préfets dans ces territoires.
Le gouvernement qui, plus que jamais, on le disait, mise sur l'accélération de la campagne de vaccination.
Oui, à ce jour, 3,2 millions de personnes ont déjà reçu au moins une injection et 1,8 million d'entre eux ont reçu les deux doses. Si on tient compte des données encourageantes du vaccin AstraZeneca et si on ajoute les livraisons de doses plus importantes dans les prochaines semaines, le gouvernement fait des projections plutôt optimistes. D'ici la mi-avril, 10 millions de personnes pourraient être vaccinées, soit la totalité des personnes vulnérables aujourd'hui éligibles à la vaccination. D'ici la mi-mai, 20 millions de personnes, soit la totalité de la population volontaire de plus de 50 ans. Et d'ici l'été, 30 millions de personnes pourraient être vaccinées, soit les deux tiers de la population de plus de 18 ans. Enfin, le Premier ministre Jean Castex a assuré que la France est en tête en Europe pour la vaccination des personnes les plus vulnérables face au virus. Une bonne nouvelle qui va permettre au gouvernement d'assouplir les règles et le protocole sanitaire dans les EHPAD.
Merci Victor Delande pour ces précisions. Le Premier ministre qui a par ailleurs annoncé de nouvelles restrictions concernant les commerces.
Et oui, au-delà de 10 000 mètres carrés, on ferme, dit le Premier ministre ce soir, dans les départements à risque et même 5 000 mètres carrés dans le Pas-de-Calais. Carole Ferry, ça concerne quand même pas mal de magasins.
Oui, effectivement, pour vous donner un exemple, cela représente 64 magasins en Île-de-France, hors alimentation donc. Ce sont essentiellement les Castorama, Boulanger, Jardiland, Decathlon. Ça concerne surtout la grande banlieue où il y a les surfaces les plus importantes, mais aussi par exemple le Printemps Nation À Paris intramuros, les grands magasins du boulevard Haussmann sont eux déjà fermés. C'est toutefois mieux que ce que craignaient les professionnels puisqu'il était question de fermer les magasins de plus de 5000 m². Et là, ce sont trois fois plus d'enseignes qui auraient dû fermer leurs portes en région parisienne. Une exception, vous l'avez dit, le Pas-de-Calais, là les surfaces de plus de 5000 m² devront bien fermer leurs portes. Et attention, pour toutes ces fermetures, il n'y a pas de distinction essentielle, non essentielle. Seuls les magasins alimentaires peuvent rester ouverts. Pas de dérogation pour le bricolage, l'informatique ou l'alimentation, par exemple, l'alimentation pour animaux, comme c'était le cas lors du premier confinement.
Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Dans l'actualité également, ce nouvel appel à l'aide des intermittents.
Ça fait un an tout juste que les lieux culturels sont fermés et hormis un court intermède estival, ils n'ont pas rouvert. On rappelle qu'il y a 300 000 intermittents en France. Des aides ont bien été mises en place, mais elles ne suffisent pas. D'où ce nouveau cri du cœur entendu dans les manifestations partout en France. Écoutez Fredo. Il est éclairagiste.
C'est très long déjà, parce qu'on n'a pas d'activité, on n'a rien. J'ai fait une formation en attendant. L'allongement de nos droits, c'est ce qui est primordial, parce que là, si ça reprend, on ne sait même pas quand ça va reprendre. On n'aura pas le temps de faire le total d'heures qui nous est le minimum pour au moins rentrer dans la case indemnisation. Et puis voir au moins une perspective, savoir quelle date on peut reprendre et sous quelles conditions et compagnie. Parce que là, c'est que des promesses. On nous dit peut-être cet été, ça va jouer, assis, debout. Enfin, on ne sait pas. C'est pas une vie, quoi.
Voilà, Fredo, éclairagiste au micro Europe 1 d'Angèle Châtelier dans la manifestation parisienne tout à l'heure. Et notez qu'à Paris, justement, le théâtre de l'Odéon est actuellement occupé par des intermittents du spectacle.
Édouard Balladur, relaxé par la Cour de justice de la République, qui le jugeait pour des soupçons de financement occulte de sa campagne présidentielle en 1995, c'est l'affaire Karachi.
L'ancien Premier ministre salue cette décision. En revanche, son ancien ministre de la Défense, François Léotard, est lui condamné à 2 ans de prison avec sursis pour complicité d'abus de biens sociaux. Il dit avoir honte de la justice française et annonce qu'il va se pourvoir en cassation.
Europe 1, Julien Bugier.
19h06, dans quelques secondes, le pape François qui arrive en Irak. Demain, l'envoyé spécial d'Europe 1 est déjà sur place.
Et puis les amateurs de rugby dans les starting blocks.
19h07, la suite du journal. C'est donc un voyage historique. Le pape François arrive demain en Irak, dans un pays meurtri par des décennies de guerre.
Un voyage auquel il n'a pas voulu renoncer, malgré la situation sanitaire et les contraintes sécuritaires. Hier encore, des roquettes se sont abattues sur une base militaire. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Irak. Vous vous trouvez à Erbil, ville du Kurdistan irakien, qui sera la troisième étape du pape. Et vous allez suivre donc cette visite au programme assez dense.
Oui, dense parce que le pape enverra à la fois un message religieux mais aussi politique et populaire. C'est d'ailleurs avec les autorités irakiennes qu'il commence sa visite à Bagdad demain, où il va se poser aux alentours de midi. Et ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il verra les représentants syriaques catholiques dans la cathédrale de Bagdad. Comité restreint à cause du coronavirus, une quarantaine de personnes seulement. Restreint aussi pour des raisons de sécurité. Le pays a connu de nombreux tirs de roquettes ces dernières semaines contre des intérêts étrangers. Mais le pape François ne semble pas s'en inquiéter.
Chers frères et sœurs en Irak, salam alaikum. Je viens comme un pèlerin de paix en recherche de fraternité, animé par le désir de prier ensemble. Musulmans, juifs, chrétiens, en ces temps difficiles de pandémie, aidons-nous les uns les autres à renforcer la fraternité.
Choukran, merci. En arabe, c'est clair, il entend parler à tout le monde, faire en sorte que les communautés catholiques, orthodoxes, musulmanes puissent de nouveau cohabiter. Ici, les atrocités commises par Daesh à l'encontre des chrétiens sont encore très présentes dans les esprits, alors en signe d'unité, et ce sera un des temps forts de sa visite, il doit rencontrer samedi l'ayatollah Sistani, plus haute autorité musulmane chiite. Ce sera avant l'événement populaire de dimanche, une grande messe célébrée dans le stade d'Erbil.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 en Irak, qui nous fera vivre donc cette visite du pape François.
En Birmanie, cette nouvelle manifestation aujourd'hui, malgré la répression meurtrière qui a fait au moins 38 morts hier lors de rassemblements pro-démocratie dans tout le pays.
L'armée doit cesser d'assassiner et d'emprisonner les manifestants, exige aujourd'hui l'ONU.
Des nouvelles du prince Philippe.
Oui, l'époux de la reine Elisabeth, qui avait été hospitalisée, vous le savez, a subi avec succès une opération du cœur. Il fêtera son 100e anniversaire au mois de juin.
On parlait tout à l'heure des intermittents du spectacle. Chez nous en France, privés de scène, les sportifs, eux, sont privés de spectateurs depuis un moment.
Et c'est vrai qu'on a tous envie de retourner dans les stades, mais c'est un peu difficile de se projeter en ce moment. Et bien voilà, une info qui va vous y aider. Simon Rubin, dans quelques jours, on pourra acheter des billets pour la prochaine Coupe du Monde de rugby qui aura lieu, on le rappelle, en France en 2023.
Oui, et d'ailleurs, le site de la billetterie en ligne indique déjà faire face à une forte affluence. Alors, je vous explique, hein, le grand public pourra acheter à partir du 6 avril les places, mais si vous vous inscrivez dès maintenant sur le site du Mondial 2023, vous pourrez acheter vos places dès le 15 mars. Et pas besoin d'être licencié dans un club de rugby, hein, il faut juste s'inscrire en ligne. Alors, les premières places en vente correspondront à ce qu'on appelle des packs, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs matchs, soit en fonction de l'équipe qu'on veut suivre, soit en fonction de la ville où on veut voir ses rencontres. Exemple, vous pouvez acheter un pack de 3 matchs à Lille pour 70€ ou bien suivre les 4 matchs de poule de l'équipe de France et ça c'est à partir de 260€ les 4 rencontres. Alors au total 2,6 millions de billets seront disponibles à la vente sur l'ensemble de la compétition et on rappelle hein, le calendrier, premier match des Bleus contre la Nouvelle-Zélande en ouverture au Stade de France. Les Bleus qui joueront ensuite à Lille, Marseille et Lyon.
Simon Rubin du service des sports d'Europe 1, rendez-vous donc pour ce Mondial de rugby en France à partir du 8 septembre 2023, Julien. Hein. Les amateurs de sport automobile, eux aussi, vont être patients, hein, puisqu'on l'a appris aujourd'hui, les 24 heures du Mans sont reportées. La célèbre épreuve d'endurance qui était programmée les 12 et 13 juin se déroulera finalement les 21 et 22 août. Les organisateurs préfèrent mettre toutes les chances de leur côté plutôt que d'organiser pour la seconde année consécutive des 24 heures sans spectateurs.
C'était le journal d'Isabelle Millet. Merci Isabelle. On vous retrouve demain aux commandes du 18-20. Très belle soirée à vous. Dans quelques secondes, le pass sanitaire en débat. On vous dira tout et on répondra à vos questions. Un coup d'œil à la météo d'abord avec Anissa Dadi qui nous a retrouvés. Malgré le froid, le soleil brille à nouveau.
Oui, c'est ce qu'on va retenir pour demain parce que nous, on aime retenir que les bonnes nouvelles. Alors sachez que dans l'après-midi, sur une grande partie du pays, le ciel sera dégagé avec de beaux rayons de soleil. Bon, il ne sera pas assez fort pour faire grimper les températures. Hein. Dans la matinée, soyez prudents dans le sud-ouest et le golfe du Lion où là nous aurons quelques bandes brouillard en plaine. Et puis dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, le ciel reste très nuageux. Nous aurons même de la neige qui tombe sur les sommets entre l'Alsace et les Alpes du Nord à partir de 800 mètres d'altitude. Il n'y a vraiment que sur le Grand Est où le temps est mauvais demain. Ailleurs, c'est lumineux. La sensation de froid, en revanche, elle est accentuée demain. Grâce à la bise, le vent de nord-est qui souffle sur la moitié nord, demain sur les côtes de la Manche. Du coup, les températures sont fraîches, moins 1 à 8 degrés le matin. Et puis l'après-midi, ça baisse encore, surtout dans le sud, avec 6 degrés à Belfort, 8 à Paris, 11 à Limoges, 13 à Lyon, 14 à Nice. Et la maximale pour la cité phocéenne, 17 degrés à Marseille demain.
Merci ma chère Anissa. À demain.
Bonne soirée.
Dans 18-20. Dans quelques secondes, le débat. D'abord, la carte blanche signée ce soir, Alexandre Malafaille.
Europe Soir. Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rappelé, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Alexandre Malafaille.
Bonsoir Julien Bugier.
Entrepreneur, fondateur du think tank Sinopia. Alors ce soir, vous avez décidé de nous parler de la réforme de la justice présentée il y a peu par le garde des Sceaux. Qu'en pensez-vous ?
Plutôt un début de coup de cœur avec cette réforme, parce que ce projet de loi, parce qu'il va plutôt dans le bon sens. Mais je vais rester prudent, parce que vous connaissez les politiques comme moi. Parfois, on peut être déçu. Alors, il y a quelques axes intéressants, mais je vais en retenir un. Mais parmi les autres, il y a la volonté de réglementer les délais d'enquête préliminaire. Aujourd'hui, ça peut durer 5 ans, 10 ans. Là, ce sera 2 ou 3 ans, et c'est une bonne chose. La volonté également de protéger le secret de la défense, oui. Et non pas l'avocat en particulier, mais vraiment comme le secret médical. Ça, c'est aussi un point important. Et puis, le point qui me paraît le plus intéressant, c'est cette volonté, en fait, de travailler. La question pénitentiaire et surtout la réduction de l'automaticité des peines. Et là, j'aimerais bien qu'on y revienne.
Voilà. Alors, c'est un coup de cœur, en somme, que vous donnez à ce projet de loi sur la justice. Alors, allons-y. Parlons prison d'abord.
Oui, parce que je crois qu'en fait, d'abord, il faut recommencer à parler de rappeler ce que c'est qu'une peine de prison. Quelles sont ses finalités ? Le premier point, c'est que je crois que, bien sûr, il ne faut pas oublier que l'objet, c'est de punir le fautif. On est bien d'accord. Réparer la victime, c'est un point très important également. Et puis, protéger la société pendant un certain temps par la mise à l'écart de celui qui a commis une faute. Voilà. Ensuite, la deuxième vocation, quand même, de la prison et de la peine de prison, c'est la préparation de la réinsertion une fois que la peine a été payée. Il faut éviter ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire le drame du néant à la sortie, le naufrage, quelqu'un qui finirait dans la rue, ça arrive malheureusement très régulièrement. Et puis, il faut éviter la récidive. Or, aujourd'hui, le taux de récidive à 5 ans est de 61%.
61%, effectivement, c'est énorme. D'où l'idée de revoir les peines automatiques.
Absolument, parce qu'aujourd'hui, en fait, le système est à, j'allais pas dire deux vitesses, mais il est double. À la fois, vous pouvez cumuler des remises de peine parce que vous vous comportez bien, et en même temps, vous avez des remises de peine automatiques. Voilà, c'est un droit. Voilà, alors je donne un exemple, hein, c'est 3 mois la première année, et puis 2 mois les années suivantes. Donc, si vous êtes condamné à 5 ans de prison, vous n'en faites que 4 ans et 1 mois, plus...
On se comporte bien.
Si on se comporte... Non, c'est acquis automatiquement. Et si on se comporte bien, on peut avoir plus. Voilà. Donc, la proposition d'Éric Dupond-Moretti, c'est de dire fini l'automaticité des réductions de peine. Il y a un seul régime. Si vous faites un effort en vue de votre réinsertion pour apprendre, pour vous soigner, pour vous former, pour vous préparer un travail, pour réussir votre réinsertion, eh bien, vous aurez un bonus. Et là, je voudrais insister sur le rôle de la société dans son ensemble, parce que la prison, ce n'est pas une oubliette dans laquelle on plonge les gens pendant 5 ans ou 10 ans. On leur donne vraiment un rôle à cette prison, et on donne aussi un rôle à l'entreprise pour participer à ce projet.
Et ça, concrètement, vous pensez que ça peut changer la donne ?
Écoutez, je pense que ça peut changer la donne, parce que sur le principe, c'est révolutionnaire, parce que le sens de l'automaticité de la remise de peine n'a pour le coup aucune cohérence. Voilà. Là, on est dans une dynamique où on fixe une règle du jeu qui sera claire, qui sera motivante pour l'institution judiciaire, pour ceux qui accompagnent ce travail d'accompagnement des gens qui sont condamnés. Et puis, ça donne un vrai sens à la peine. Voilà. On vous sanctionne, d'accord, mais on vous incite à changer et on va vous accompagner.
Bien. Alors, comme ça, sur le papier, ça paraît bien, ça paraît simple, mais il doit y avoir quelques obstacles tout de même à tout cela.
Il y en a quelques-uns, il y en a même beaucoup, je le crains. D'abord, il faut que la loi soit votée. Rappelons quand même qu'elle sera dans un petit créneau discuté à l'Assemblée mi-mai. Ensuite, il faudra surtout la mettre en œuvre. Et elle ne s'appliquera bien sûr qu'aux nouveaux condamnés, donc il n'y a pas de rétroactivité, bien sûr. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que la prison, c'est un véritable tunnel aujourd'hui. Et pour passer de cette prison-tunnel à un parcours de réinsertion, il faut des moyens. Parce que se soigner, c'est bien, mais il faut des médecins, il faut des psychologues. Apprendre, il faut du temps, il faut des professeurs, il faut des salles, il faut des outils. Pour se former, il faut des formateurs. J'insistais sur les entreprises, il faut créer des liens, des passerelles. Et puis tout ça, ça suppose d'avoir des moyens humains, des surveillants, des juges d'application des peines pour gérer toute cette période-là. Bref, sans véritable moyen, ce projet-là, il est voué en partie à l'échec. Alors, je voudrais quand même rappeler à tout le monde, c'est que nos prisons sont quasiment les pires d'Europe. Hein, il faut voir la qualité de la surpopulation et la vétusté des prisons. Allez visiter un jour si vous ne l'avez pas fait. Moi, j'ai visité Fresnes un jour, c'est édifiant.
Je l'ai fait déjà.
C'est édifiant comme de voir l'état des prisons françaises. Donc la première pierre, c'est la dignité et le respect dans une espèce de dynamique gagnant-gagnant. Donc allons-y pour cette réforme, mais donnons-nous les moyens, sinon ça fera cheat.
Merci Alexandre Malafaille pour cette carte blanche et ce coup de cœur d'une certaine manière à la réforme de la justice portée par Éric Dupond-Moretti.
Europe 1, Julien Bugier.
19h17, vous restez avec nous dans quelques secondes. Débat passionnant, nécessaire et très très concret sur le pass sanitaire. De quoi s'agit-il précisément ? Faudra-t-il être vacciné ? Faudra-t-il être testé en permanence pour pouvoir demain prendre l'avion, prendre le train, aller au musée, au restaurant ou simplement voir des amis ? On répond aussi à vos questions. Le standard est ouvert. À tout de suite avec nos invités. Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on va donc tout vous dire sur ce fameux pass sanitaire qui pourrait bientôt devenir notre quotidien pour voyager, pour aller au musée, au cinéma et bien sûr au restaurant. Le gouvernement planche sur la question, l'Europe prépare aussi une proposition. Alors concrètement, à quoi faut-il se préparer ? Faudra-t-il par exemple être vacciné ou avoir son test en poche pour pouvoir profiter de la vie d'avant ? On en parle donc ce soir avec nos invités et vos témoignages. Le standard est ouvert, on répondra comme souvent dans le débat du Club des Idées à toutes vos questions. On en parle avec Paul Marcaggi. Je vais y arriver, pardon. Bonsoir, vous êtes médecin urgentiste à Ajaccio, expert international, et vous avez créé Travel Password.
Exact.
Vous nous expliquerez de quoi il s'agit. On en parle également avec Alice Débiol. Bonsoir, vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste, et vous avez écrit aux éditions Fayard l'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde apaisé. Bienvenue à vous. Et on en parle avec Jean-Pierre Mas. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir.
Vous êtes président des entreprises du voyage. Alors d'abord, est-ce que c'est une nécessité, selon vous, de mettre en place ce passe sanitaire. Je vais commencer par vous, Jean-Pierre.
Bien sûr, c'est une nécessité. Pour rentrer en France aujourd'hui, il faut fournir un test PCR de moins de 72 heures. Quand on vient d'Europe, puis il y a une petite contradiction, quand on ne vient pas d'Europe, on ne peut pas rentrer, c'est-à-dire que si on vient en dehors de l'Europe, le test PCR n'est plus valable.
Aussi quand on veut aller chez nos amis corses, d'ailleurs. Il faut un test PCR de moins de 48 heures maintenant.
Et pour voyager en Europe, il faut un test PCR.
Oui.
Il va falloir bientôt, chaque État va faire sa loi. Des États demanderont des tests, PCR ou antigéniques, d'autres des vaccinations et des tests. Donc il va falloir répondre aux demandes spécifiques de chacun des États dans lesquels on va vouloir se rendre.
Et vous, pour quelle solution, d'une certaine manière, vous militez ? C'est compliqué d'avoir un pass sanitaire basé sur une vaccination quand tout le monde n'a pas accès à ces vaccins.
Ça, c'est un problème d'égalité devant la vaccination, mais ça ne relève pas de notre compétence. Et l'égalité devant la vaccination va être établie mais dans les prochaines semaines.
Pour les entreprises du voyage, quel est le principal intérêt ? Ce pass ne soit pas trop contraignant, sinon ça va dissuader les gens de voyager.
Il y a deux possibilités. Vous voulez aller en République dominicaine. Soit vous partez avec des papiers qui sont écrits en français, qu'il va falloir faire traduire. Là, vous avez votre test PCR, il va falloir le faire traduire. Soit vous partez sur votre téléphone portable avec une application où votre test PCR est déjà traduit, ou votre vaccination éventuelle, si elle est demandée, est déjà traduite. Et ça facilite, ça fluidifie le trafic aux frontières.
Une précision, quand je reviens, pour reprendre votre exemple de République dominicaine, ça veut dire que sur place, en République dominicaine, il faut que je refasse un test PCR le cas échéant. Pour rentrer en France, sacrée organisation, ça, quand on est en vacances et qu'on ne connaît pas le pays en question.
Les réglementations vont évoluer, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si vous allez en Espagne ou en Allemagne, il faut un test au départ et un test au retour si vous y restez plus de 72 heures.
Et ça fonctionne bien ?
Avec très peu de trafic actuellement.
Paul McCarthy, sur cette problématique du voyage, puisqu'on a commencé par ça.
Je rejoins entièrement le propos de mon collègue de table, là. Moi, j'ai réfléchi à ça dès le mois de février 2020 parce que je voyage énormément et j'ai voulu mixer mon activité médicale avec mes activités de voyage qui sont aussi professionnelles.
Oui.
Effectivement, c'est compliqué, mais il y a une façon intelligente de réfléchir à la chose, d'avoir des tests, mais pas que des tests, et pas que le test PCR ou le test antigénique ou que le vaccin. Il faut mixer l'analyse médicale qu'on a à disposition et qui est très simple à utiliser. On a des tests, on a des sérologies et on a des vaccins. Donc, il n'y a pas que le vaccin qui vous autorise à bouger. Alors, les gens qui ont été malades, ils ont une immunité la plupart.
Oui.
Pourquoi on les empêcherait de bouger? Pourquoi on les empêcherait d'aller manger au restaurant?
Pour l'instant, tout est sur la table, en réalité encore, puisqu'il y a d'abord le gouvernement français qui réfléchit à son pass sanitaire. Il y a l'Europe aussi qui, le 17 mars, va présenter son passeport vaccinal. Pour l'instant, on ne sait pas bien comment encore tout cela va s'appeler, mais ça en prend la direction. Alice Desbiol, l'idée, c'est que dans un premier temps, ce serait d'installer des QR codes, je crois, à flasher avec l'application Tous Anti-Covid à l'entrée des restaurants afin de faciliter le traçage des cas contacts. Ça veut dire qu'on rentre dans un musée, on rentre dans un bar, on rentre dans un restaurant, éventuellement on rentre dans un train, on s'identifie avec son téléphone portable sur un QR code, et s'il y a un cas de contamination, on peut nous contacter pour éventuellement nous isoler ou nous tester. C'est ça l'idée.
Après, quand on parle du pass sanitaire qui conditionnerait finalement l'accès à une vie sociale, à une vie culturelle, là, disons que moi, je serais peut-être un petit peu plus nuancée que mon confrère et les autres invités aujourd'hui, puisque ce que je crains peut-être, c'est qu'on ouvre en fait une espèce de boîte de Pandore et qu'on crée un précédent, puisque ça ne s'est jamais vraiment vu dans l'histoire de la médecine ou de la santé publique moderne. Et la question, finalement, c'est jusqu'où va-t-on ? Je m'inquiète vraiment de questions d'ordre...
On n'y est pas favorable.
Je dirais pas que c'est pas que je n'y suis pas favorable, c'est que je pense qu'il faut vraiment se poser les questions de manière collective pour vraiment faire démocratie sanitaire. Et on dispose de plein d'instances indépendantes comme le Comité consultatif national d'éthique, le Haut Conseil de la santé publique auquel je participe, ou encore la Haute Autorité de santé. Et je pense que sur des questions aussi importantes qui touchent à l'intégrité du corps, à la liberté de circulation, à la confidentialité des données, au respect de la vie privée, au consentement aussi aux soins ou à subir un test ou à recevoir un produit de santé, je pense que ces questions-là mériteraient d'être discutées de manière transdisciplinaire.
C'est une bonne intervention, Paul Marcaggi, parce que c'est vrai que ça pose la question, effectivement, de la protection des données, d'une surveillance quand même à grande échelle, faut dire les choses, parce qu'avec ces applications, on pourrait être tracé, on connaît nos déplacements, on sait qui on voit, on sait où on va, quasiment en temps réel. Et puis, la grande question que pose Madame aussi, c'est une fois qu'on a mis le doigt de là-dedans, est-ce qu'on peut revenir en arrière ?
Écoutez,
comprenez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
Une fois
tout
que le système existe, que la logistique existe, c'est confortable quand même. Donc demain, on pourrait imaginer que pour voyager, il ne faut pas avoir la grippe, il ne faut pas avoir la gastro-entérite, il ne faut pas avoir telle ou telle maladie.
C'est déjà le cas. Si vous êtes sur un bateau de croisière, vous avez une gastro-entérite, on peut vous débarquer. Quoi.
Oui.
D'accord ? Mais aussi.
Mais ça repose sur la confiance.
Bien sûr, il y a une déclaration. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis la confiance au sein de mon application. Il n'y a pas de tracking. D'accord ? Il n'y a aucun tracking. Vous mettez vos données personnelles dans l'application, vous les montrez à qui vous voulez. Je vous rappelle quand même que si vous voulez aller passer des vacances au Sénégal ou si vous voulez aller en Afrique de l'Ouest, la plupart du temps, vous devez montrer votre certificat de vaccination international.
Oui.
Si vous ne le montrez pas à l'embarquement ou au débarquement, vous repartez illico presto en France. Quoi.
Oui.
D'accord ?
Oui.
Donc, c'est un précédent qui existe. On n'a jamais obligé qui que ce soit. Aujourd'hui, pour voyager, vous allez dans des endroits...
Mais c'est sur un bout de papier, ouais. C'est pas dans son téléphone portable.
D'accord, mais vous pouvez mettre la même chose dans votre téléphone portable sans qu'il y ait aucun tracking.
Absolument. Et puis, ce n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé d'être traqué. Et nous sommes tous traqués en permanence. Aujourd'hui, Google sait que nous sommes ici chez Europe 1, que nous allons nous déplacer après cette émission. On est traqués en permanence. Et je trouve que ça, c'est une réflexion très franco-française de liberté de mouvement, de ne pas être surveillé. La liberté, c'est d'accepter de ne pas être surveillé si on ne veut pas aller voyager, si on ne veut pas aller au spectacle.
Après, qu'est-ce Google que vous répondez à ça, Alice Desbiols, sur ce point?
Oui, je dirais quand même que la... Google et compagnie ne traquent pas encore nos données de santé confidentielles. Ils n'ont pas forcément encore, pour le moment en tout cas, accès à vos résultats de tests, de sérologie, à vos échos cardiaques, à vos bilans sanguins. Donc il y a quand même encore une protection, une confidentialité des données. Je pense aussi que la question qu'on pourrait se poser, c'est la question de l'adhésion et du consentement. Parce que là, quelque part, c'est une obligation déguisée, c'est une obligation qui ne dit pas son nom. Et quand on sait que l'OMS considère que la défiance vaccinale est une des principales menaces pour la santé publique, je pense que voilà, forcer les gens comme ça et faire un chantage à l'accès à la vie sociale, ça
Si ce n'est quand même que sur l'adhésion, sondage IFOP publié le 16 janvier dernier, donc j'imagine que ça a dû évoluer depuis, 62% des Français se disent favorables à ce que la vaccination soit obligatoire pour voyager, par exemple, à l'étranger. C'est une courte majorité. Mais c'est une majorité tout de même. Paul Marcaggi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de donner de l'anglicisme à votre nom de famille. Alors que c'est Corse.
Ça suffit, Marcaggi. Avec une antépénultième, voilà. C'est parfait.
Enlever le deuxième, pardonnez-moi. Les jeunes, par exemple, ils pourraient être tracés de manière particulière parce qu'ils n'auront pas, a priori, accès à la vaccination d'ici à l'été, les jeunes.
Oui,
pour voyager. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'obligation vaccinale pour voyager. C'est simplement une obligation de test négatif.
On est bien d'accord. C'est pour ça que, si vous voulez, il ne faut pas raisonner ni que sur le test PCR, ni que sur le vaccin, ni que sur la sérologie, et encore moins sur les tests antigéniques. Il y a toute une batterie de tests disponibles et de possibilités médicales d'analyse de ces éléments. Utilisons-les. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a quand même... Moi, je suis médecin régulateur et je pratique la médecine tous les jours. Je vois des patients, j'ai soigné des patients Covid. Après, il y a des gens qui souffrent psychologiquement et financièrement.
Bien. On se retrouve dans quelques secondes, 19h29. On marque une pause avec les questions des auditeurs et des éditrices. Elles sont nombreuses, ces questions, et vous y répondrez les uns et les autres. À tout de suite. 19h30, passé d'une minute, le débat du Club des Idées suite. Et ce soir, on s'intéresse donc à ce fameux pass sanitaire ou pass vaccinal qui est en discussion au sein du gouvernement et au sein de la Commission européenne. Et ça pourrait d'ailleurs bientôt entrer en vigueur. On en parle donc ce soir avec nos invités et avec aussi vos questions. Je voudrais qu'on écoute Gérard, par exemple. La question de Gérard.
Je m'appelle Gérard et je vis à Paris. L'idée d'un passeport, je comprends, mais moi, ça me laisse un peu sceptique quand même, parce qu'on risque de cliver et j'ai peur que ça crée des catégories entre les citoyens.
Paul Marcaggi, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Vous êtes médecin urgentiste à Ajaccio, expert international, et je le rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous rejoignent en cours de route, vous avez créé Travel Password.
Effectivement, ça peut cliver, mais aujourd'hui, le clivage, il est simple. Restez à la maison à partir de 18h. Donc, et souffrez si vous devez souffrir, sinon profitez de la vie à votre domicile.
Oui.
Donc moi, j'estime qu'à un moment, il va falloir... J'aime bien prendre un peu de risque dans la vie. Je gère des risques à longueur de journée en tant que médecin régulateur du SAMU. Il faut prendre des risques dans la vie. À un moment... On clive un peu et on libère des gens pour que tout le monde puisse mieux profiter plus tard.
Vous pouvez nous expliquer en quelques mots cette application, ce système Travel Password que vous avez créé?
Oui, c'est un système extrêmement simple. N'importe qui peut en faire l'utiliser très simplement. Il n'y a aucune donnée qui sort de l'application. Vous remplissez, c'est l'individu, l'utilisateur qui remplit par lui-même l'application. Chaque fois que vous allez mettre un examen, quel qu'il soit, vous en faites la photo, vous le validez et il va venir s'ajouter à votre historique médical. Il y a des rubriques globales, vaccins, allergies, traitements, examens de laboratoire, examens radiologiques.
Tout, dans son téléphone, tout est dans le téléphone. Cloud, comme on dit.
Il n'y a pas de cloud.
Il n'y a pas de cloud.
Il ne sort
c'est dans
pas.
L'application.
C'est uniquement dans le téléphone. Vous D'accord. prenez votre téléphone, vous le jetez dans la mer, ben vous perdez et votre téléphone et les données qui sont à l'intérieur.
Ah oui, donc il faut sauvegarder quand même.
Vous sauvegardez nulle part. Parce sinon, vous sauvegardez sur un cloud et à ce moment-là, les données de santé sortent. Donc, le postulat initial de mon application, c'est tout à l'intérieur du téléphone.
Il ne faut pas perdre son téléphone une fois qu'on est parti en vacances, sinon on ne peut pas revenir.
Vous pouvez revenir parce que vous pourrez garder une copie papier éventuellement, ouais. comme vous allez faire une copie papier de votre passeport, de votre carte d'identité ou de permis de conduire si vous partez loin. Mais l'avantage, c'est que vous allez avoir tout dans le téléphone et vous le montrerez à qui vous voulez.
Bien. Deuxième question, Charles.
Je m'appelle Charles et j'ai 20 ans. Ça permettrait de retourner un peu à la normale un peu plus tôt que prévu, donc ce serait une vraiment bonne idée. Mais je me demande, est-ce qu'il faudra le renouveler pour le test? Est-ce qu'il faudra en refaire un nouveau toutes les deux semaines, par exemple?
Alice Desbiol, bonne question, médecin de santé publique épidémiologiste. Ça veut dire que si ça fonctionne comme ça, avec un test PCR qu'on a dans son téléphone portable, hein, qu'on scanne par exemple quand on veut prendre le train, l'avion, je ne sais quoi, le musée ou aller au restaurant, comme on l'évoquait tout à l'heure, il faudra faire des tests PCR à chaque fois?
Bah, visiblement, oui. Enfin, si on veut que ça ait un minimum de cohérence. Mais là, moi, ce qui m'a un peu interpellée dans la question de cet auditeur, c'est qu'il commence quand même sa question en disant si ça permet de retourner à une vie normale. Donc, est-ce que les motivations, en fait, sont les bonnes? Est-ce qu'on enfin, je ne suis pas sûre que... Enfin, encore une fois, on n'a jamais fait ça dans l'histoire de la
médecine
moderne.
Pourquoi ça vous fait peur, vous?
Bah, pour toutes ces questions de...
Éthique, surtout?
Éthique, déontologique, de forcer comme ça... Si vous voulez, moi ce que je crains aussi, c'est que là on parle de passeport sanitaire, on conditionne l'accès à la vie sociale ou culturelle, alors qu'on n'a même pas assez de vaccins en fait pour toute la population cible, toute la population recommandée par la Haute Autorité de Santé. Donc déjà, il y a en plus un risque peut-être de même de clientélisme, de passe-droit pour les personnes bien introduites qui auraient par exemple plus facilement accès à un médecin ou au vaccin. Donc il y a encore un risque voilà de renforcement.
Là-dessus, je crois que le président de la République, pour ce qui est de la France, Emmanuel Macron a été clair. Il ne veut pour l'instant que le passe sanitaire et que ce passe sanitaire ne soit pas lié au vaccin, car il y a une question, vous le venez de le souligner, de rupture d'égalité. Donc tant qu'il n'y aura pas de vaccin pour tout le monde, voilà, il n'y aura pas de passeport vaccinal. On va continuer les questions parce que c'est intéressant et c'est très concret. Nouvelle question.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 44 ans. Moi, je n'ai pas Internet en dehors de chez moi. Donc, comment faire pour avoir la preuve qu'on peut aller manger au restaurant, au musée et dans tous les circuits où il y aura du monde?
Paul Marcaggi, qu'est-ce qu'on peut
répondre
à ça? Il n'y a aucun
problème, madame. L'application, elle est autonome. Vous n'avez pas besoin de connexion ni Wi-Fi, ni Internet, ni 3G ou 4G. Parce que toutes vos infos sont stockées dans votre téléphone. Il suffit que la batterie soit on et tout va bien.
Moi, j'ai une question connexe. Si on n'a pas de smartphone, parce que vous savez que c'est il y a plus de 10%
c'est
des
le,
Français...
C'est le trou dans la raquette.
Vous savez qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français qui n'ont pas de smartphone.
Je sais,
hein. Mais
tout
beaucoup.
À fait. Ouais, mais si vous voulez, la conception de l'application, elle n'est pas non plus que franco-française.
Oui.
D'accord. Elle est mondiale ou européenne. Quoi. Effectivement, en France, il y a des gens qui n'ont pas de smartphone.
Il y a même des gens qui n'ont pas de téléphone mobile du tout.
Tout à fait.
Et c'est leur droit.
Ils ont le droit, d'accord. Mais vous pouvez aller en Afrique, vous verrez que les jeunes Africains, ils ont beaucoup plus de smartphones que les jeunes Français. Et ils l'utilisent avec beaucoup plus d'efficience qu'on peut l'utiliser en
France.
La
vieille grand-mère, vous lui mettez un smartphone entre les mains, je pense qu'elle n'y comprend rien. Jean-Pierre Masse, qu'est-ce qu'on fait pour cela?
C'est pas un problème, ça. Si on n'a pas de smartphone, on a du papier avec le certificat de vaccination que l'on a aujourd'hui physiquement quand on est vacciné, avec les résultats des tests PCR, et on fournit, on délivre du papier. Simplement, le papier, c'est lourd, c'est compliqué, c'est en une seule langue, ça peut être modifié, trafiqué, avec un QR code, les risques de modification sont beaucoup moins grands.
Bien.
Mais
ce
n'est pas obligatoire.
Donc il faut qu'il y ait une alternative quand même pour ces gens qui n'ont pas de smartphone. On est en ligne aussi avec David Zenouda, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes propriétaire de 6 établissements, je crois, bar à vin, restaurant, et représentant de l'UMI, nuit notamment à Paris. Vous êtes à l'arrêt aujourd'hui, comme tout le monde?
Ah, complètement.
Oui.
Je rappelle, les discothèques, ça va faire bientôt un an, le 14 mars, que les établissements sont fermés. Les bars de nuit, ils ont pris un peu plus longtemps que les restaurants, puisqu'ils ont fermé un mois et demi plus tôt. Et
vous
les restaurants, bientôt 6 mois. Alors, on tient le coup, pour certains, c'est très dur. Je ne parle pas de moi, puisque je suis représentant de ma profession. Pour ma part, on va dire que ça peut aller. Mais pour la majorité de mes confrères, la difficulté est d'obtenir les aides, vous le savez, de tenir le coup parce que depuis trois mois, on a pour certains effectivement accès aux aides, mais pour d'autres, pendant 6 mois, on n'a rien eu. Donc ça a été très compliqué, effectivement.
Alors, David, que pensez-vous, vous, de cette proposition qui fait débat autour du pass sanitaire et qui permettrait donc, d'une certaine manière, de retrouver la vie d'avant, c'est vrai, mais avec les contraintes qu'on sait?
Alors, il y a deux choses dans la notion du pass sanitaire, si je le comprends bien. Il y a cette manière d'accéder aux établissements recevant du public où il faut présenter des données qui justifient que la personne est saine, entre guillemets. Et puis, il y a la collaboration de l'établissement à contrôler ce pass sanitaire et à mettre en place notamment les QR codes dans les établissements pour justement permettre de savoir si telle ou telle personne était présente dans les établissements.
Vous y êtes favorable ou pas?
Alors, à partir du moment où...
Je comprends que ce n'est pas simple, d'après ce que vous nous dites pour les établissements et les restaurateurs, mais est-ce que vous y êtes favorable?
Alors, à partir du moment, déjà, où la vaccination n'est pas intégrée au pass sanitaire, ça va déjà permettre aux clients et aux restaurateurs d'être un tout petit peu soulagés, parce que je vous le rappelle qu'on ne va pas pouvoir trier les gens qui se sont vaccinés et sélectionner ceux qui ne se sont pas vaccinés. Ça va être déjà dur pour la reprise. Oui. Et en plus, il va falloir se passer des personnes qui n'ont pas pu se faire vacciner. Oui. Ça va être très compliqué économiquement.
Bon, donc vous êtes plutôt contre.
Par principe, si le passeport sanitaire intègre le vaccin, oui, nous sommes contre.
Encore une fois, le président l'a dit pour l'instant, hein, ça n'intégrera pas dans un premier temps le vaccin. Mais c'est vrai qu'il y a un élément que vous soulignez, David Zenouda, c'est l'idée que le restaurateur, le patron d'établissement, va un peu devoir faire la police quand même.
Bah, c'est ce que les restaurateurs ne veulent pas faire. Je vous rappelle que notre métier a proposé un certain nombre de protocoles pour la réouverture en octobre des établissements, enfin, pour pouvoir continuer de travailler pour ce qui était des restaurants. Là, on va continuer de proposer des choses aux différents ministères, notamment encore hier au ministère du secrétariat d'État du numérique. On va proposer des éléments pour la réouverture. On va proposer des éléments pour la réouverture. Mais on est vraiment pas certain qu'on va pouvoir sélectionner comme ça les clients qui vont avoir le droit de rentrer ou non chez nous. C'est pas notre métier. Nous, on rend du plaisir à notre table. On n'est pas là pour fliquer nos clients.
Oui. Vous êtes sûr que vous êtes fermé parce qu'on entend du bruit derrière? Non, je plaisante. Si vous êtes ouvert, imaginez.
Je suis en train de préparer une réouverture avec des amis.
Je blague.
Je travaille.
Bon,
je
merci pour votre témoignage, en tout cas, David Zenouda. Et bon courage pour la suite. On pense évidemment à tous nos amis propriétaires d'établissements qui sont obligés, malheureusement, de continuer à être fermés, et notamment aux restaurateurs. Merci à vous. Peut-être une réaction, Jean-Pierre Masse, à ce professionnel. Alors, ce n'est pas le même secteur que vous, puisque vous travaillez dans les entreprises du voyage que vous représentez, président des entreprises du voyage. Mais voilà, ce monsieur, il dit, nous, on n'a pas envie de faire la police à l'entrée de nos établissements et de vérifier que le client qui vient dîner ou qui vient boire un verre, eh ben, il a bien son PCR négatif.
Je vais avoir deux réactions. Ma réaction professionnelle, ce n'est pas mon secteur. Je m'occupe des flux transfrontaliers, des déplacements transfrontaliers. Et la règle est que tous les pays dont la France, exigent des tests PCR ou vont exiger, certains déjà, comme Israël, exigent des vaccinations. Donc ça, c'est l'état des choses. Ensuite, je vais avoir une seconde réponse en tant que citoyen. En tant qu'utilisateur d'un restaurant, d'un spectacle, d'un concert, d'un stade, je me demande si je ne serais pas satisfait de savoir que le restaurant assure un contrôle à l'entrée, n'a parmi ses clients que des clients qui présentent un test négatif ou qui sont vaccinés et assure que son personnel présente un test négatif ou est vacciné.
Oui.
C'est un élément de sécurisation qui peut drainer de la clientèle vers son restaurant.
On va reprendre un nouvel auditeur dans quelques secondes, mais j'ai une question quand même assez précise. Très personnel, mais je pense que beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices la partagent. Jusqu'à quand ça va durer, cette histoire-là? Parce que quand 50% de la population française sera vaccinée, et notamment les plus fragiles, ce qu'on souhaite tous, bien sûr, on sera dans une épidémie qui sera une épidémie moins dangereuse, moins létale. Donc, est-ce qu'on va continuer à suivre et à demander des tests PCR quand on sera, arrivé à l'immunité collective? Vous voyez, une fois que c'est parti, est-ce qu'on arrivera à faire marche arrière?
Je pense que je n'ai pas la réponse à cela. Je ne sais pas combien de temps la France demandera un test PCR pour rentrer sur son territoire et combien de temps les autres pays le demanderont. Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que depuis un an, on vit à quatre pattes. Oui. On vit confiné, caché, couvre-feu, oui. Tout ça. On a envie de vivre debout. Et vivre, oui. Il va falloir que nous vivions debout.
Mais parce que la question qu'il y a derrière, Jean-Pierre Mas, c'est est-ce que ça ne va pas arriver trop tard ? Parce que si ça arrive cet été, cette histoire-là, cet été, on sera déjà pour partie vacciné. Si le président de la République arrive à son objectif de vacciner quasiment toute la population adulte au mois d'août.
Je le souhaite. Et évidemment, si on passe par 5 ou 6 comités théodules qui vont prendre 2 mois pour donner un avis, on arrivera trop tard. Il faut aller relativement vite parce qu'il y a une demande des Français et une demande des pays pour voyager. Donc, il faut aller vite.
Paul Marcagi sur ce point.
Écoutez, je pensais que l'été dernier, selon mon confrère marseillais Raoult, le virus allait disparaître avec l'été. On a d'abord de la saison estivale 2021, le virus est encore là, avec des variants. Donc, je pense qu'avec mon collègue épidémiologiste, on sait que c'est comme une grippe. Ça tourne autour du monde, ça va venir,
après,
ça va revenir.
Mais après, il va falloir, comme a dit le président, accepter de vivre
avec. On est bien d'accord, mais je ne suis pas du tout affolé par ce virus. On n'en est pas peur. Il y aurait Ebola, on rigolerait différemment.
Absolument.
Ça, je suis d'accord avec
Alice
vous.
Alice Débiol.
Il faut bien voir, c'est ce que nous dit le Lancet là, dans un article récent, c'est que ce virus, il va falloir... il va être là encore pendant plusieurs années, même si on a des tests, des vaccins, qu'on met en place des stratégies.
Et puis, il viendra saisonnier, sans doute.
Et surtout, c'est ce que j'allais dire, c'est que là, on commence à bien connaître la dynamique virale. Et comme beaucoup de virus respiratoires qu'on connaît bien, hein, que ce soit la grippe, comme le disait mon confrère, ou encore le VRS, le virus respiratoire syncytial, ce sont des virus en fait, qui résistent assez mal à la chaleur. Et donc, en fait, c'est des épidémies cycliques qui reviennent chaque hiver. C'est peut-être bien parti pour être le cas avec le coronavirus, qui est, il faut bien le rappeler aussi, une maladie non immunisante. Donc, la durée de protection de la vaccination n'est pas claire. On a demandé aux essais, on a demandé aux industriels seulement 2 mois de recul pour juger l'efficacité de leur vaccin. Donc, on ne sait pas, en fait, a priori, ça va durer plus longtemps, la protection immunitaire du vaccin. Mais il faut bien voir que c'est une maladie non immunisante. Donc, certainement, comme la grippe, il va falloir se vacciner chaque année, vacciner le public cible chaque année. Donc, ça pose encore une fois la question de quoi on se lance là quand on parle de toutes ces histoires de passe sanitaire et compagnie.
Bonsoir Franck Bonnarel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de Ken Group, groupe de gym, de sport, qui regroupe CMG Sport Club, les clubs de Clé, Blanche, le Ken Club notamment à Paris. Que pensez-vous, vous, de cette possibilité de l'instauration d'un pass sanitaire pour vous permettre de rouvrir vos clubs de sport ?
Moi, je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été dites ce soir par M. Baff et Marcazzi. C'est-à-dire que nous, on est effectivement tout à fait favorable à la mise en place d'un pass sanitaire en complément des mesures d'hygiène et de sécurité très rigoureuses qui ont déjà été instaurées dans les clubs de sport depuis le début de la pandémie. Très certainement, ce pass serait un outil supplémentaire pour garantir la santé de nos équipes, de nos membres. Et nos établissements sont des lieux de vie, de partage. Le pass sanitaire permettrait possiblement la réouverture des clubs et des restaurants dans un cadre rassurant et fiable pour tous. Parce qu'au-delà de la reprise, donc, entre le dernier jour du premier confinement et le premier jour du second confinement, on a une baisse de fréquentation de plus de 50%. Les gens ont quand même la trouille. Donc, effectivement, s'ils ont la possibilité de pouvoir venir dans un lieu relativement sécurisé et puis nous d'offrir toute la sécurité nécessaire pour la pratique du sport, parce que c'est très particulier. Alors après, effectivement, il faut que dans ce pass sanitaire soit inclus probablement la vaccination, les tests, parce que nous, les gens qui viennent dans des clubs de sport viennent 4-5 fois par semaine. Donc si effectivement ils doivent faire un test toutes les 48 heures, je pense que c'est une multitude de choses qui doivent composer ce pass. Qui permettrait, il faut à un moment donné que tout le monde puisse revivre.
Et vous acceptez l'idée de vérifier, de fliquer d'une certaine manière à l'entrée vos adhérents avec un éventuel QR code dans lequel serait mis le test PCR négatif pour pouvoir venir au club, parce que ça force par conséquent vos adhérents à aller se faire tester quand même relativement régulièrement, tous les 2 jours.
Ça, c'est un problème. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, ce pass sanitaire doit être composé, je ne suis pas spécialiste, mais de multitudes de choses qui permettent effectivement de sécuriser. Mais en tout cas, le simple fait, si vous voulez, de d'adhérer à Stop Covid, ou c'est l'histoire de civisme, c'est-à-dire que tout le monde devrait pouvoir le faire. Et comme le disait un de vos intervenants tout à l'heure, on est déjà tracé. Vous utilisez votre carte bancaire, vous passez un coup de fil, vous êtes localisé par Waze. Enfin, je veux dire, c'est un faux problème. Alors effectivement, il y a un souci de vaccination, donc que tout le monde soit à peu près sécurisé, ou en tout cas ceux qui le veulent. Et encore une fois, si vous n'avez pas envie d'aller au restaurant parce que vous trouvez que c'est trop contraignant de s'inscrire sur l'application ou de passer un QR code.
Mais c'est pareil pour vous. Enfin, s'il faut le test PCR négatif, je répète ma question, mais on ne va pas se faire tester toutes les 48 heures si on veut aller à son club de sport préféré tous les jours.
Oui, mais sinon, c'est rien. Donc, qu'est-ce qui nous est proposé ? Est-ce que c'est une rouverture avec restriction, effectivement, d'être soit vacciné, d'avoir déjà eu le Covid, d'avoir un test, ou est-ce que c'est rien ?
Les tests salivaires, peut-être. C'est ça aussi.
Les tests salivaires, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, ce pass sanitaire ne va pas être mis en place demain.
Bien.
Donc, il va se passer un temps infini. Peut-être que d'ici là, c'est pour nous permettre de réouvrir avec une mesure de sécurité supplémentaire. Et je pense que tout le monde doit pouvoir y adhérer.
Merci beaucoup, Franck Bonnarel, pour votre témoignage et pour votre point de vue. Je voudrais vous faire partager aussi la question de Claude sur la protection des données. C'est une interrogation qui est beaucoup revenue ce soir chez nos auditeurs et nos auditrices.
Je m'appelle Claude et j'ai 73 ans. Est-ce que mes données personnelles seront protégées ? On peut se poser la question. Tous anti-Covid, je sais que je ne l'ai pas fait, moi. Moi, je n'ai pas envie d'être tracé.
Bon, on y a un peu répondu tout à l'heure. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, Paul Marcavi, qui sont hostiles quand même à cette idée d'être tracé, d'être surveillé, même si c'est vrai, quand on est sur Facebook, quand on est sur Twitter, quand on est sur Instagram, quand on va sur Google régulièrement, on peut être tracé. Mais il y a le côté institutionnalisation quand même du traçage qui résonne dans la tête des Français. Et puis sur des données sensibles que sont la santé.
Vous savez, en plus dans l'activité de médecin en gentil, j'ai passé tous les diplômes de responsabilité médicale, de droit médical et d'éthique. Je rejoins ma consoeur. Effectivement. Mais si vous voulez, si on met en place des applications qui sont connectées à rien, le patient, l'utilisateur, alimente lui-même le document, l'application. N'importe qui en France, en Europe, et voire dans le monde, parce qu'il y a aussi des règles juridiques qui s'appliquent comme ça, n'importe quel patient peut montrer le résultat d'un test ou d'un scanner ou d'une échographie à qui il veut.
Oui.
D'accord ? C'est lui le détenteur de son dossier médical. Il ne faut pas l'oublier. Si moi, je montre mon résultat à M. Mas, parce que je veux lui montrer mon résultat, c'est une chose. Si M. Mas va vous le montrer tout à l'heure, c'est une faute, c'est différent. Donc, aujourd'hui, vous voulez voyager, on vous demande une attestation sur l'honneur, on vous demande un test. Vous les fournissez, vous voyagez. Vous ne les fournissez pas, vous ne voyagez pas. C'est terminé, vous ne montez pas dans l'avion. Donc, arrêtons de se masturber le cerveau et laissons les gens choisir ce qu'ils veulent. C'est aussi simple que ça.
Jean-Pierre Mas.
Je suis tout à fait d'accord. Cette histoire de la protection des données personnelles...
Il y a quand même un truc qui est assez paradoxal dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui... depuis là, quelques semaines, voyager hors Union européenne et pour certains pays...
Possible.
Voilà, c'est pas possible.
Moi, je rentre d'Istanbul.
C'est pas possible. Mais jusqu'à présent, c'était possible.
Bien sûr.
C'était possible. Mais demain, ce sera possible, mais plus contraignant.
Demain, ce sera possible, comme voyager dans l'Union européenne, parce que le bon sens va prévaloir. Un test PCR pour revenir d'Espagne, et rien ne peut justifier un retour du Maroc ou de Tunisie.
Est-ce que vous militez, par exemple, pour qu'on puisse faire des tests PCR en 2 heures à l'aéroport quand on arrive ? Parce que sinon, ça va être compliqué pour tous les gens de s'organiser, peut-être.
Les tests PCR en 2 heures, je ne suis pas sûr que ce soit possible, mais les tests antigéniques, c'est possible. Les tests salivaires, c'est possible.
Mais ils sont moins fiables.
Oui.
Oui. Mais en fait, on va aller vers la vaccination. Progressivement, on ira vers la vaccination. Et si on veut voyager, il faudra être vacciné. Faire savoir que l'on est vacciné par un QR code que l'on a sur son portable et qui est, comme vous le disiez, qui est chez nous, à nous uniquement, ou faire savoir que l'on est vacciné en fournissant du papier, c'est la même chose. Simplement, c'est plus fluide, le QR code.
Alice Desbiol, vous pensez qu'on arrivera à atteindre les objectifs de vaccination fixés par le gouvernement ?
Oui, bien sûr. Après, ça pose aussi la question, par exemple, pour les personnes qui ont une contre-indication vaccinale, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes-là ? Elles vont être sacrifiées sur l'aune d'une espèce de politique sanitaire dont on se pose vraiment la question sur le fondement. Donc...
Il peut y avoir des exceptions tout de même.
Ce n'est pas parce que quelqu'un a une interdiction médicale d'être vacciné qu'il faut que personne ne voyage. On est à l'égalité par le bas.
C'est juste dommage qu'on conditionne les voyages et le retour à la vie normale à une obligation.
Mais pour les vaccins, vous faites l'école d'infirmière, vous pouvez pas être vacciné pour l'hépatite B. Il suffit que vous ayez un médecin agréé de l'administration qui atteste que vous avez une contre-indication à la vaccination. On vous empêchera jamais d'être infirmière à cause de ça, quoi.
Oui. Bien, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. On n'a pas fini d'en parler parce que le projet est pour l'instant vraiment à son démarrage. Et puis on attend le 17 mars la présentation par la Commission européenne de son projet de passeport vaccinal qui s'appelle le Digital Green Pass. Voilà, c'est comme ça que ça a été nommé par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Dans un instant, 19h52, on parle des archives avec Le Jour ou 3 minutes pour comprendre. Victor Chabert qui viendra nous le présenter. À tout de suite. Bonsoir Victor Chabert.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, nous allons avec vous revenir sur un événement qui a provoqué une déflagration politique au sein de la gauche dans les années 70. On remonte au 4 mars 1972. Ce sont les obsèques de Pierre Auvernet, un militant tué quelques jours plus tôt. Il avait 23 ans.
Oui, il est 14h30 devant les usines Renault de Billancourt le 25 février 1972, quand une distribution de tracts de militants maoïstes dégénère. L'un des vigiles, Jean-Antoine Tramoni, armé alors qu'il ne devait pas l'être, tire deux coups de feu. Pierre Auvernet, activiste de la gauche prolétarienne, s'écroule. Un témoin raconte au micro Europe numéro 1 de Gilles Schneider.
Les gars sont arrivés, ils ont attaqué la boutique des gardiens. Alors évidemment, il y a un inspecteur qui s'est entouré, il a tiré un coup, et après il a tiré à nouveau, et il y a un gars qui est tombé, parce que ces choses-là se passent, ça va très vite.
Les répercussions politiques sont énormes. Post-68, la gauche est divisée en deux camps. D'un côté, les communistes et la CGT, qui ne veulent pas entendre parler des groupes gauchistes, idéologues, prêts à la révolution et trahissant la cause des travailleurs. De l'autre, les socialistes et la CFDT qui voient en eux un futur vivier de militants. Après cette tragédie, un appel à la grève est lancé. Une grande manifestation a lieu le 28 février. Michel Rocard, Jean-Paul Sartre en tête de cortège. Les slogans fusent contre la CGT et le PC.
Marché, conflit, réfus, assassin, marché, conflit,
Georges Marchais, secrétaire national du PC, n'hésitera pas à attaquer les groupes gauchistes et les socialistes. Il les accuse d'être en lutte contre les communistes et par la même occasion de servir le pouvoir. Il est interviewé par Gérard Carrérou le 28 février 1972 pour Europe numéro 1.
Le mot d'ordre de grève qui avait été lancé est un échec total. La mort de ce jeune ne nous laisse pas indifférents. C'est un malheur. Mais il faut bien voir ceux qui ont sur les mains le sang de ce jeune. C'est le pouvoir avec sa politique. Mais j'ajoute, ce sont aussi ceux qui ont beaucoup spéculé sur les groupes gauchistes pour combattre le Parti communiste.
Alors, le 4 mars, les obsèques de Pierre Auvernet rassemblent plus de 200 000 personnes à Paris. Socialistes et extrême-gauche sont main dans la main. Et le 8 mars, un cadre de Renault est enlevé.
Il s'agit de Pierre Nogrette, chef adjoint des relations sociales de l'usine de Billancourt. Le rapt est revendiqué par le groupe Pierre Auvernet de la Nouvelle Résistance Populaire, branche d'action de la gauche prolétarienne. Robert Nogrette sera libéré quelques jours plus tard, mais ce kidnapping va bousculer encore davantage la classe politique. Le président Pompidou dénonce des méthodes dignes d'un pays de sauvages et surtout, à gauche, le fossé se creuse. Que faire de ces méthodes? Certains, comme la Ligue communiste révolutionnaire, approuvent, d'autres ne tolèrent pas, mais s'en servent, à l'instar de François Mitterrand, qui en profite pour tacler Marchais en meeting le 13 mars 72.
Nous condamnons la violence et son enchaînement. Aller à l'enterrement d'un ouvrier abattu par les chiens de garde de la société, est-ce ce qu'un parti voisin ose appeler participer à une action commune avec les gauchistes? Je dis à Georges Marchais que deux contre-vérités ne font pas une vérité.
Oui, le nom de Pierre Auvernet va rester évidemment gravé dans les mouvances les plus radicales de l'extrême-gauche.
Oui, en 1977, Jean-Antoine Tramoni, l'assassin de Pierre Auvernet, est sorti de prison. Il est abattu par deux tueurs à moto se réclamant du noyau armé pour l'autonomie populaire, composé d'anciens militants de la gauche prolétarienne, une vengeance. Et en 1986, c'est Georges Besse, le patron de Renault, qui est assassiné en bas de chez lui. Un attentat revendiqué par le groupe terroriste Action Directe. Son commando portait le nom de Pierre Auvernet.
Merci pour ce récit, Victor Chabert. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h58, dans un instant, le rappel de l'info. Julien Pierce et puis Émilie Mazoyer pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien.
Alors, quel est ton programme ce soir?
Alors, déjà, je vous fais juste un petit avant-goût de demain, mais notez-le dans vos tablettes, vous ne voudrez pas le rater. Demain, on sera avec Kylie Minogue. Non, ça c'est Hall, mais voilà, demain on sera avec Kylie Minogue. J'attendais que Julien me dise « Waouh, j'adore, je suis amoureux !»
Waouh, j'adore, je suis amoureux.
Merci Julien. Donc ça c'est demain et ce soir. Là, j'adore et je suis amoureuse aussi de Hall, qui est une jeune artiste française qui fait de l'électro, qui fait aussi de la chanson, qui a une voix absolument d'ange et qui participe à la bande originale de la série Événement du moment chez les moins de 20 ans, une série qui s'appelle Scam.
Scam, la série de France Télévisions.
Exactement.
Je connais ça, j'ai déjà vu.
Bien sûr. Et donc, Hall fait partie de la bande originale et viendra nous parler de ça.
Merci infiniment. Merci, Émilie. On se retrouve dans quelques instants pour ton émission. Julien Pierce pour le rappel de l'info dans quelques secondes. Demain, à cette même place et à ce même micro, ce sera Isabelle Millet pour Europe Soir. Merci de votre fidélité.